Vous écoutez, on lit pour vous.
Le Far West de la Lune, un texte de Mathieu Perrault, paru le 17 février 2024 dans la presse. Le traité de l'ONU sur l'espace date de 1967. Il est particulièrement inadéquat pour réglementer le boom lunaire qui s'annonce, selon une juriste d'un prestigieux centre de recherche sur le droit de l'espace, qui présente une conférence à la réunion de l'AAAS. L'industrie spatiale s'oppose à toute réglementation supplémentaire, explique en entrevue Michelle Hanlon de l'Université du Mississippi, qui est la fondatrice de For All Mankind, une ONG de préservation des sites d'émission lunaire. Les États-Unis réglementent bien les lancements de satellites, mais on craint que toute réglementation supplémentaire n'avantage les firmes des autres pays. En 2018, la firme américaine Swarm avait lancé 4 microsatellites de télécommunication depuis l'Inde après le refus des autorités américaines d'autoriser leur lancement de crainte qu'il ne soit trop petit pour être suivi depuis la Terre. À la suite d'une amende de près de 1 million US, Swarm était rentré dans le rang pour ses autres lancements, mais le précédent avait montré la fragilité du système, selon Mme Hanlon. L'objectif primordial du traité sur l'espace était d'éviter que des armes nucléaires soient déployées dans l'espace. Que la guerre froide ne s'étende pas sur la Lune. Il y a donc peu de procédures applicables aux litiges civils, nous dit-elle. Le traité sur l'espace a été signé en premier lieu par l'URSS, les États-Unis et le Royaume-Uni. Plus d'une centaine de pays l'ont signé. Avec les multiples plans de missions privées vers la Lune, les bases lunaires américaines et chinoises, nous entrons dans une nouvelle phase de l'exploration lunaire, dit Mme Hanlon. Les négociateurs du traité en 1967 n'auraient pas pu prévoir les projets d'exploitation minière de la Lune et des astéroïdes, de construction industrielle en orbite, de tourisme spatial. En théorie, le droit international s'applique à l'exploration et à l'utilisation de l'espace, mais cela n'a jamais été mis à l'épreuve sur le plan juridique. UNESCO et UNCLOS. Quelles sont les autres avenues pour réglementer le secteur spatial privé? L'idéal serait un nouveau traité sur l'espace, mais avec les tensions internationales actuelles, il est peu probable que ce soit possible. Certains évoquent l'application du droit de la mer, codifié par la Convention de l'ONU sur le droit de la mer, UNCLOS. Mais le droit de la mer est fondé sur des siècles de tradition, dit Mme Hanlon. Le domaine spatial est trop récent pour avoir des traditions bien ancrées. Une autre possibilité est l'UNESCO. Le traité de l'UNESCO est reconnu par 193 pays et vise à préserver le patrimoine de l'humanité. Selon certaines interprétations, un article du traité, qui rend chaque État responsable des activités de ses citoyens et des dommages qu'ils causent, pourrait s'appliquer à l'espace. Face à ces incertitudes juridiques, le droit de l'espace est en ébullition. Il y a 4 grands centres de droit de l'espace dans le monde, aux Pays-Bas et aux universités du Mississippi, du Nebraska et McGill à Montréal, dit Mme Hanlon. J'ai moi-même étudié à McGill, qui bénéficie de la proximité de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. Cendre sur la Lune. Les États-Unis aussi souffrent d'une paralysie du droit de l'espace. Le président Barack Obama, en 2015, a réussi à faire passer une loi sur le commerce dans l'espace qui prévoit que personne ne peut prendre possession d'un astéroïde, mais que quiconque peut en exploiter les ressources, dit Mme Hanlon. En 2020, la NASA a attribué des contrats à des entreprises privées pour qu'elles rapportent sur Terre de la poussière lunaire. C'est en quelque sorte la consécration du laisser-faire, même si c'est un premier pas vers la réglementation de l'espace. Mais depuis, il n'y a pas eu de progrès à cause de la dysfonction partisane du Congrès. Certains veulent que les activités commerciales des entreprises américaines dans l'espace soient réglementées par les autorités aéronautiques, la FAA, d'autres par le Département du commerce. Les récentes protestations de communautés autochtones face au projet de la mission privée Peregrine de déposer sur la Lune les cendres d'humains illustrent bien les conséquences de cette inaction. En 1998, la mission Lunar Prospector avait déposé des cendres sur la Lune, dit Mme Hanlon, celle du planétologue Eugene Shoemaker. Des groupes autochtones avaient condamné ce qui, pour eux, était une profanation d'un astre sacré. La NASA avait promis de consulter les Autochtones si un autre projet du genre voyait le jour. Mais aucune consultation n'a eu lieu avant Peregrine parce que c'était un projet privé, même si le financement venait de la NASA. Peregrine a échoué en janvier avant même d'atteindre la Lune à cause d'une fuite de carburant. Le printemps dernier, une consultation de la NASA sur les projets actuels d'exploration lunaire a eu lieu à Washington. Mme Hanlon y a participé, tout comme la firme américaine autochtone United First Nations Planetary Defense, qui vise à favoriser la participation autochtone dans l'exploration spatiale. Peregrine a été discuté dans cette consultation. Les groupes autochtones étaient au courant. Il est tout de même étonnant qu'ils aient attendu 2 semaines avant le lancement de la mission pour faire connaître leur indignation. S'ils avaient vraiment voulu discuter des cendres sur la Lune, il aurait mieux valu en parler à la NASA avant, plutôt que d'alerter les médias à la dernière minute. Comme toujours, des questions juridiques importantes concernant l'espace sont utilisées à des fins de gains politiques à court terme sur Terre. Pendant ce temps, le droit de l'espace ne progresse pas. En savoir plus, source, la NASA, 85, nombre de lancements spatiaux en 2000, 223, nombre de lancements spatiaux en 2023. C'était « Le Far West de la Lune », un texte de Mathieu Perrault, paru le 15 février 2024, dans la presse.
Arbitrer en famille. Un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 8 février 2024 dans la presse. Avec 2 ados qui pratiquent le hockey de haut niveau, la famille Lévesque passait déjà le plus clair de son temps dans les arénas. Ce n'était pas suffisant, semble-t-il, parce que 3 d'entre eux, le papa et les 2 ados, ont décidé de se lancer dans l'arbitrage, une implication qui nécessite beaucoup d'organisation, mais surtout, qui amène son lot d'impact positif. Ça fait beaucoup de hockey, dites-vous? On est passionné, vous répondra Chloé, 15 ans. C'est exactement ce qu'elle nous dit quand on passe ce même commentaire lors de notre entretien avec la famille sur la plateforme Zoom. Pour être passionné, la famille Lévesque est passionnée. C'est Chloé elle-même qui a été la première à faire le pas vers l'arbitrage. La défenseure pour les As de Québec, M18AAA féminin, a eu cette idée en discutant avec des coéquipières. On s'est dit qu'on pourrait suivre notre formation, qu'on allait commencer et voir si on a du fun, raconte-t-elle. Finalement, j'aime vraiment ça. Comme elle n'a que 15 ans, Chloé n'a pas encore de permis de conduire. Nécessairement, un de ses 2 parents devait l'accompagner au match. Mon père a dit, « Tant qu'à venir te reconduire, je vais embarquer sur la glace avec toi », relate l'adolescente. Son père esquisse un sourire. On avait déjà un horaire assez chargé, mais là, je me suis dit, « Tant qu'à venir et rester assis ». Même chose du côté de Jacob, qui, étant donné l'horaire de transport compliqué, devait assister au match de sa sœur. Rester assis dans les estrades d'une soirée, ce n'est pas tout le temps le fun, donc j'ai décidé d'arbitrer aussi, lâche le jeune homme de 14 ans. Affirmation de soi. Guillaume Lévesque est gestionnaire pour une compagnie d'assurance. À 43 ans, il ne perçoit pas son implication dans le hockey mineur comme un travail ou un revenu secondaire. C'est vraiment par passion et pour redonner, explique-t-il. Sa conjointe et lui se réjouissent surtout des impacts positifs de cet emploi sur leurs enfants. Ce qu'on se disait, c'est que c'est bon pour la gestion des émotions quand ils jouent eux-mêmes. Ils apprennent qu'une erreur, ça arrive. Sa fille abonde dans le même sens. En tant que joueur, on a tendance à chialer après les arbitres. Mais quand tu es une arbitre et une joueuse, tu te dis « je pourrais être à sa place en ce moment ». L'autre élément, c'est beaucoup l'affirmation de soi et de se faire confiance, continue M. Lévesque. Tu es dans une situation où il faut que tu sois en contrôle, que tu sois conséquent des décisions que tu prends. Il faut que tu sois capable de les expliquer. C'est une analyse qui vient rapidement. Ça sert autant dans leur match de hockey, où il faut que tu t'ajustes rapidement, qu'à l'école, ou dans des situations de tous les jours, où tu fais face à une situation où il faut que tu analyses et que tu prennes une décision rapidement, souligne Guillaume Lévesque. Comme les membres de la famille n'arbitrent pas souvent les trois ensemble, celui ou ceux qui sont dans les gradins prennent des notes. On se permet d'être critique envers les uns et les autres, lance M. Lévesque. On veut s'améliorer, ajoute sa fille. On prend des petites notes. Des matchs plus intéressants. Au cours des 5 derniers mois, il n'est arrivé que 2 fois que les 3 membres de la famille soient assignés au même match, dont la journée où a été prise la photo qui coiffe cet article. Les fins observateurs auront remarqué que c'est Chloé qui porte les bandes oranges d'arbitre en chef. Cette journée-là, le trio s'est donné comme mission d'arbitrer avec intensité. Pour les jeunes, nous raconte le paternel. On était vraiment dedans. On patinait. On faisait les appels à longueur de la glace. Les petits gars étaient dedans. Les coachs tripaient. Ça fait des matchs plus intéressants, note Chloé. Quand on est sur la coche et qu'on garde le contrôle sur notre match, ils ont le goût de se forcer, même si c'est un lundi soir et qu'ils ont eu une grosse journée, nous dit Chloé Lévesque. Si tu apportes l'intensité en tant qu'arbitre dans ce que tu as à faire, ça n'a pas le choix de donner un bon spectacle pour les joueurs, les coachs, les parents aussi, note M. Lévesque. Si tu es tout mou et qu'il y a un mauvais call, ça va crier. Si tu es dedans et que tu en manques une, le pardon est plus facile aussi. Dans le secteur de la rive nord de Québec, les situations problématiques impliquant parents ou entraîneurs sont plutôt rares selon le co-responsable des arbitres, Sébastien Aubry. Monsieur Lévesque en a une en mémoire où un entraîneur adjoint l'a complètement échappé. Il s'en est pris verbalement et gestuellement à sa fille en début de match. « Mais ça demeure une minorité, insiste-t-il. » « Ça arrive parfois, mais c'est rare, complète Chloé. J'ai fait plus de 30 matchs depuis le début de l'année et c'est arrivé 2 ou 3 fois. » Ça nous responsabilise. Comme Chloé et Jacob passent la grande majorité de leur fin de semaine à l'extérieur pour leur propre match, les Lévesque arbitrent principalement les soirs de semaine. En matière d'organisation, la famille est bien rodée. Les parents ont créé un calendrier consolidé incluant le travail, les activités hockey et les activités hors hockey. Quand ils reçoivent leurs assignations, ils savent déjà où ça peut entrer et où ça ne peut pas entrer, explique le père de famille. ça nous responsabilise. Ça nous aide avec notre autonomie, notre Chloé. On voit comment ils font les horaires, on apprend de ça, on est capable d'avoir une routine, on garde tout ça serré. Alors que notre entretien tire à sa fin, on demande au trio s'il a quelque chose à ajouter. Le papa précise, « Nous, c'est vraiment de l'implication positive. Je comprends qu'on ne peut pas tout le temps être les trois ensemble, mais c'est vraiment quelque chose quand ça arrive. » C'était « Arbitrer en famille », un texte de Catherine Harvey-Pinard, paru le 8 février 2024 dans La Presse.
La berbérine serait-elle un Ozempic naturel pour perdre du poids? Un texte de Pauline Gravel, paru le 12 février 2024 dans Le Devoir. La berbérine, un produit naturel qui est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise et indienne depuis des centaines d'années, fait fureur en ce moment parmi ceux qui désirent perdre du poids. Plusieurs y voient une version naturelle de l'Ozempic qui, en plus, coûte beaucoup moins cher. Les experts sont toutefois très sceptiques sur le potentiel amaigrissant de cette molécule et ils en déconseillent l'utilisation. Les réseaux sociaux ont contribué à créer un véritable engouement pour la berbérine qui est présentée comme une substance naturelle vraisemblablement plus saine qu'un médicament, permettant de perdre du poids, et ce, à moindre coût que l'Ozempic, ce médicament employé d'abord pour traiter les diabétiques, et dont on a découvert qu'il entraînait aussi une perte de poids. Même certains athlètes dont le poids est important dans la pratique de leur sport préfèrent avoir recours à la berbérine plutôt qu'à des molécules comme l'Ozempic qui, selon des rumeurs, feraient davantage fondre la masse musculaire que la berbérine. Selon les experts consultés, ces propriétés attribuées à la berbérine, qui peut être extraite de différentes plantes, comme l'hydraste du Canada, la savoyane et l'épine vinette, sont encore loin d'être prouvées. Quelques études semblent indiquer que la berbérine induit une perte de poids, mais certaines d'entre elles n'ont pas été faites dans les règles de l'art, et plusieurs portaient sur des populations hétérogènes présentant divers problèmes de santé, comme le diabète. Les participants de ces études n'étaient pas nécessairement en bonne santé, ce qui fait qu'il est difficile d'en tirer des conclusions solides quant à l'effet de la berbérine sur la perte du poids, affirme Sylvia Santosa, professeure au département de santé, de kinésiologie et de physiologie appliquée de l'Université Concordia. De plus, la plupart des études ont été effectuées chez l'animal, le plus souvent chez la souris. Un nombre très restreint ont été menées chez l'humain et elles présentent plusieurs limites. Fait remarquer cette titulaire d'une chaire de recherche en nutrition clinique qui mène des recherches sur l'obésité. Nous ne sommes pas à un point où on pourrait recommander la berbérine pour la perte de poids. Nous avons besoin d'autres grandes études bien menées et comprenant des contrôles, dit-elle. Peu d'études. Le docteur Rémi Rabaza-Loret, endocrinologue à l'Institut de recherche clinique de Montréal, IRCM, et au CHUM, affirme avoir vu deux ou trois études sur la berbérine rapportant une perte de poids, cette dernière étant toutefois moitié moindre que celle obtenue avec l'Ozempic. L'Ozempic, qui, pour sa part, a fait l'objet de dizaines d'études randomisées contrôlées, où on compare un groupe de patients recevant le médicament à un groupe témoin prenant un placebo,
avec des milliers de patients. Dans aussi peu d'études, chez un groupe d'humains aussi faible, il y a possiblement un signal de perte de poids qui est intéressant, mais il va falloir certainement le confirmer. Et aux sportifs, il répond que quand on perd du poids, on perd nécessairement aussi de la masse musculaire. Spécialiste en médecine interne et bariatrique à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, la docteure Marie-Philippe Morin exprime aussi beaucoup de réserves sur la berbérine. Avant tout, parce qu'il s'agit d'un produit naturel et que ceux-ci ne sont pas soumis à une évaluation aussi rigoureuse que les médicaments avant leur homologation. On procède simplement à des études de toxicité pour s'assurer que les doses qui seront mises en marché ne sont pas toxiques, souligne-t-elle. Je le déconseillerais aux patients qui voudraient en prendre, car souvent, les populations touchées par l'obésité ont plusieurs comorbidités et prennent beaucoup d'autres médicaments pour ces autres problèmes de santé. Alors, il y a des risques d'interaction avec ces médicaments et d'effets secondaires importants, indique-t-elle. Vous écoutez, la berbérine serait-elle un Ozempic naturel pour perdre du poids? Un texte de Pauline Gravel, paru le 12 février 2024 dans Le Devoir. Pas d'approbation par Santé Canada. Pour sa part, Santé Canada n'a autorisé aucun produit contenant de la berbérine pour des allégations relatives au poids. Des études ont montré que la berbérine avait un certain effet sur le poids, mais les données étaient insuffisantes pour répondre à notre norme de preuve pour toute allégation relative au poids. A précisé au Devoir, par courriel, Marie-Pierre Burel, conseillère des relations avec les médias à Santé Canada. Les allégations approuvées par Santé Canada sont plutôt le maintien d'un taux de cholestérol sain, d'un métabolisme lipidique sain et d'un métabolisme du glucose sain. La berbérine a été testée dans le cadre de quelques essais cliniques chez des personnes atteintes de diabète et il a été démontré qu'elle réduisait de manière significative les taux de glucose et de lipides dans le sang. Le mécanisme exact qui sous-tend ces effets fait toujours l'objet de recherches précliniques animales et humaines, a ajouté Mme Burel. Il y a une espèce d'aura autour des produits naturels qui fait qu'on les considère forcément comme bons. Et il y a cette tendance à penser que tout ce qui vient de l'industrie pharmaceutique est presque toujours toxique et mauvais. Or, la ciguë est un produit tout à fait naturel dont on connaît les effets secondaires redoutables depuis l'Antiquité. Rappelle le docteur Rabassa Loret. L'effet de la berbérine sur la glycémie qui est rapporté dans les études n'est pas négligeable, convient le docteur Rabassa Loret, médecin à la clinique de diabète de l'IRCM. Mais les doses, la forme du produit et la durée du traitement sont extrêmement variables d'une étude à l'autre. Et dans les articles, qui ne sont souvent pas publiés dans des revues scientifiques ayant un facteur d'impact élevé, on ne parle pas des effets secondaires, signale-t-il. On est très, très loin d'un produit qui a été bien étudié, comme doivent l'être les médicaments avant leur approbation par Santé Canada. Compte tenu de tous ces bémols, je déconseille aux patients diabétiques de prendre de la berbérine au jour d'aujourd'hui, déclare le spécialiste qui croit néanmoins que l'effet hypoglycémiant de la berbérine mériterait d'être étudié de manière plus sérieuse. Les experts consultés insistent par ailleurs sur le danger que représentent les possibles interactions avec les autres médicaments. Si une personne prend un hypoglycémiant pour traiter son diabète et qu'elle se mette à consommer de la berbérine, elle risque de faire des hypoglycémies, souligne le Dr Rabassa-Loret, qui encourage ses patients à discuter de ce qu'ils prennent en dehors de la médication qui leur est prescrite. Souvent, les gens préfèrent un produit naturel à un médicament. Or, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est bon pour notre santé. Plusieurs croient à tort que parce que c'est naturel, c'est meilleur. Ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a plein de champignons vénéneux qui sont naturels. La belladone, qui provient d'une plante, est très toxique, relève Sylvia Santosa. Il y a une espèce d'aura autour des produits naturels qui fait qu'on les considère forcément comme bons. Et il y a cette tendance à penser que tout ce qui vient de l'industrie pharmaceutique est presque toujours toxique et mauvais. Or, la ciguë est un produit tout à fait naturel dont on connaît les effets secondaires redoutables depuis l'Antiquité. Et la metformine, un médicament largement utilisé pour traiter le diabète, est extraite du lilas. C'est donc en quelque sorte un produit naturel, ajoute le Dr Rabassa-Loret. Selon la Dr Marie-Philippe Morin, le fait que les gens se ruent sur toutes sortes de produits naturels et divers programmes commerciaux démontre bien la carence en soins de santé pour l'obésité au Québec. Il y a très peu de cliniques d'obésité et l'accès aux médicaments pour l'obésité, à la chirurgie bariatrique, à des équipes multidisciplinaires est très limité, voire parfois impossible si la personne n'est pas diabétique. C'est 3 ans d'attente pour la chirurgie bariatrique. Face à une telle pénurie, les gens se retrouvent seuls avec leurs problèmes, alors ils se tournent vers les médias sociaux, vers les sites Internet, vers toutes sortes de choses qui, parfois, n'ont ni queue ni tête, parce qu'ils sont désespérés. Notre gouvernement doit augmenter l'accessibilité aux soins pour ces personnes, parce que nous avons des choses à leur offrir. C'était « La berbérine serait-elle un Ozempic naturel pour perdre du poids? » Un texte de Pauline Gravel, paru le 12 février 2024 dans Le Devoir.